Vous êtes bien sûr Radio Orient avec vous, François-Xavier de Calonne. Invité de Pluriel, Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, président du groupe d'amitié interparlementaire France-Pays du Golfe. Olivier Cadic, bonjour.
Bonjour.
Le protocole d'accord signé le 17 juin dernier entre Washington et Téhéran ouvre bien entendu une perspective de désescalade après 4 mois de guerre. Un texte signé à distance par les chefs d'État états-uniens et iraniens. Quelles sont les conditions pour que cette perspective devienne une réalité? Ce n'est pas encore le cas, bien entendu.
Je pense que là, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, effectivement, c'est la prise de conscience de tous côtés, que ce soit états-uniens comme iraniens, que le conflit armé, la guerre, n'est pas une solution pour régler les litiges. Et donc, aujourd'hui, ce qui a été accordé, c'est un peu comme dans un business. Quand vous devez faire une levée de fonds, vous commencez par signer un term sheet qui donne quelques grands points de l'accord qui sont très importants. Et ensuite, derrière, vous négociez avec vos investisseurs pour faire l'accord, la façon de vivre au quotidien, le term sheet qu'on avait décidé. Donc, effectivement, on a certains points d'accord, mais dans ces points d'accord, il manque quand même la raison pour laquelle il y avait ce conflit, qui était la question du nucléaire en Iran et de la menace existentielle que l'Iran faisait porter sur Israël. De l'autre côté, il y a aussi une problématique que nous portons depuis très longtemps, qui est la question aussi des Palestiniens. Et donc, la possibilité d'avoir un État palestinien, puisque beaucoup considèrent aussi qu'on n'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas la solution à deux États, même si elle apparaît très complexe aujourd'hui à mener. Ceci étant, donc c'est pour ça qu'entre cet accord aujourd'hui, qui est ce signature de term sheet, et le fait de régler les problèmes de fond, on voit bien que le chemin va être encore très très long, et il a fallu des décennies pour qu'on constate qu'on n'y est toujours pas parvenu, mais on voit bien que le conflit n'est pas la bonne solution. Donc effectivement, ce qu'il y a de bien avec cette démarche, c'est qu'au moins, on arrête de faire parler les armes.
Et on comprend à travers votre propos, Monsieur le sénateur Olivier Cadic, qu'il y a des variables qui sont extérieures à cet accord.
Si on en est là, c'est parce que au départ, l'Iran menace l'existence même d'Israël et que Israël se sent sous tension. C'est son existence en tant que telle qui est menacée. Et donc, on comprend que les Israéliens soient dans une situation de dire qu'ils veulent, je dirais, repousser l'étau et enlever des menaces existentielles. Ça, on peut le comprendre. De l'autre côté, effectivement, tous les autres partenaires de la zone veulent aussi trouver une solution à cette question palestinienne qui est toujours sur la table et que tout le monde doit régler tous ensemble pour pouvoir parvenir à la paix. C'était quand même la vision à une époque des accords d'Oslo, donc d'aller dans cette direction. Donc c'est l'objectif final et c'est ce que porte la France avec cette volonté de solution à deux États pour pouvoir effectivement régler définitivement les problèmes, faire le respect d'un État d'Israël qui puisse vivre en paix et en harmonie avec ses voisins.
Paris qui prônait la solution diplomatique, la France a d'ailleurs été moquée, hein. C'est finalement cette solution qui voit le jour aujourd'hui.
C'est le langage de la raison qui parle et je suis très fier à chaque fois que la France cherche à porter justement cette parole d'apaisement, de dire qu'on ne règle rien par un conflit. Maintenant, on avait autour de la table des gens qui, de toute façon, avaient décidé d'en découdre. Et on peut voir les proxys iraniens, la façon, la pression qu'ils exercent sur le, qu'ils exerçaient directement sur Israël. Je pense que ce à quoi l'Iran ne s'attendait pas, c'est que le conflit puisse être porté directement avec l'Iran, puisqu'ils pensaient qu'ils pouvaient s'abriter derrière leur proxy. En réalité, on voit bien que les proxys sont bien au service de l'Iran. Le Hezbollah a attaqué Israël Israël, donc se fait passer pour faisant partie de l'État libanais, mais on voit bien que le Hezbollah ne respecte en rien l'État libanais, n'a pas informé ni le gouvernement ni le Parlement libanais. Ils ont décidé d'aller en guerre avec Israël et d'entraîner le Liban à leur suite, qui souffre des conséquences de leurs actions. On voit bien que tous ces corps étrangers, comme le Hamas, comme le Hezbollah, comme les Houthis au Yémen, comme on voit certains maintenant naître en Irak, eh bien, on voit que ces corps-là sont destinés à déstabiliser, à mettre en difficulté Israël. C'est leur volonté. Et de l'autre côté, il y a une réaction qui se fait. Est-ce qu'elle est proportionnée ou pas? C'est ça la question bien souvent qui irrite.
Vous évoquez les proxys satellites de l'Iran. Un accord cadre a été signé samedi dernier. Malgré tout, Israël a mené ces derniers jours de nouvelles frappes dans le sud du Liban. Un député du Hezbollah estime que cet accord est susceptible d'entraîner le pays dans un conflit interne. Comment vous, Olivier Cadic, qui êtes un spécialiste de cette région, vous évaluez cette situation et ce risque de conflit interne au Liban? C'est aussi une crainte d'ailleurs du gouvernement libanais.
J'ai toujours dit que le Hezbollah faisait le malheur du Liban. Et la déclaration de ce député démontre ce que j'ai toujours dit. Ils ne sont pas là pour défendre le Liban. Ils sont là pour défendre les intérêts d'une puissance extérieure qui s'appelle l'Iran. Et donc, fatalement, le fait qu'ils soient au cœur du système crée un trouble, met le Liban en danger grave. Mais ça n'est pas la première fois que le Liban vit ces ingérences étrangères. Donc on l'a connu aussi avec d'autres pays riverains. Et donc c'est effectivement un vrai défi pour le président et le premier ministre libanais. Pour avoir rencontré Joseph Aoun à plusieurs occasions, je pense qu'il est l'homme de la situation pour tenter d'éviter, je dirais, le pire pour son pays, qui serait à nouveau une guerre civile. Mais on a vu que la puissance étrangère que peut être l'Iran se moque bien des conséquences. Et à partir du moment où un ambassadeur est déclaré persona non grata et que l'ambassadeur décide quand même de rester dans le pays, ça démontre l'aplomb qu'ils se considèrent finalement comme chez eux au Liban et prêts à porter éventuellement le combat sur le sol libanais. C'est évidemment intolérable pour tous ceux qui sont pour l'état de droit. Et je pense qu'effectivement, la question sur le désarmement du Hezbollah est déterminante pour la paix dans la région. C'est un point fort. Je sais que c'est difficile à discuter pour le Hezbollah, qui est dans cette idée de conflit avec Israël. Mais ce conflit-là, ce n'est pas le conflit du Liban, c'est le conflit de l'Iran. Et donc aujourd'hui, il faut que le Hezbollah dépose les armes. Si ce député Hezbollah veut siéger, eh bien, je pense qu'il faut qu'il fasse de la politique. Il peut défendre les intérêts de son pays. Il a le droit d'avoir des idées différentes. C'est le propre de toute démocratie. Mais en aucun cas, entraîner tout son pays dans la folie de la destruction.
Voilà, le Liban, victime collatérale de cette guerre, vous le soulignez vous aussi. La semaine dernière, sur Radio Orient, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Éléonore Carroix, estimait que la voix du Liban et des Libanais n'était pas suffisamment entendue. Des propos après une visite, un déplacement dans le pays, c'est aussi ce que vous percevez?
Je pense que ici, dans l'hémicycle, on se fait le relais régulier des positions du Liban, enfin des Libanais, des chrétiens, mais aussi d'autres, des chiites, des sunnites, pour bien faire comprendre que le Liban est divers et varié et que c'est un pays qui savait vivre en harmonie. À partir du moment où des puissances étrangères cherchent à diviser le pays, tous les ingrédients sont réunis au Liban pour pouvoir effectivement essayer d'agir de la sorte. Mais l'idée même du Liban est plus forte que cette vision communautariste. Et donc, il y a cette envie de faire nation au Liban. J'ai rencontré de nombreux leaders politiques et donc je suis très confiant sur leur capacité à défendre cette idée d'un Liban. Ils savent se faire entendre. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, ce sont les puissances étrangères qui font du Liban un terrain de jeu pour faire valoir leurs intérêts directs. C'est ça qui fait aujourd'hui le malheur du Liban. Donnons au Liban les moyens donc, de fonctionner par lui-même, que son armée ait les moyens effectivement de pouvoir désarmer le Hezbollah et qu'il faut une seule armée, il faut qu'il n'y ait qu'une seule puissance armée au Liban pour assurer la sécurité de ce pays.
Pas suffisamment entendu et écouté au niveau international, hein, selon le propos d'Eleonore Carroix. Dans ce conflit entre Israël et l'Iran, les pays du Golfe, comme Oman, les Émirats ou encore l'Arabie Saoudite, sont des acteurs stabilisateurs. Le sultan d'Oman a d'ailleurs été reçu ce lundi par Emmanuel Macron. Je crois que c'est une première pour un sultan d'Oman depuis 1989, un déplacement à Paris.
Effectivement, en tant que président du groupe d'amitié avec les pays du Golfe, j'étais aux Invalides pour l'hommage rendu au sultan et je suis allé écouter son discours à l'UNESCO. C'est effectivement, Oman apparaît aujourd'hui à tout le monde comme étant un point clé du monde, puisque le détroit d'Ormuz attire justement tous les regards. Il y a aujourd'hui une nouvelle problématique qui naît du conflit, qui est que l'Iran veut désormais assurer des droits de passage présentés sous différentes formes pour pouvoir circuler dans le détroit d'Ormuz, qui serait une nouveauté, ce qui pose plein de problèmes, parce que demain on peut retrouver cette approche-là sur plusieurs endroits de la planète, c'est contraire à la liberté de circulation dans l'espace maritime. Et donc, ça va être un nouveau sujet. Oman, c'est formidable que le sultan fasse ce déplacement, mais quelque part, ça montre aussi l'importance que peut avoir la France au niveau diplomatique, ce qui a réussi à être un peu imposé, puisque effectivement, ce discours de raison finit toujours par porter. Et on voit que Oman est un des leaders, justement, dans l'approche médiatrice.
Olivier Cadic, vous êtes un sénateur centriste, l'heure du bilan sonnera bientôt pour Emmanuel Macron. Mais depuis 2017, que souhaitez-vous retenir de son action en matière de politique étrangère? Et je pense particulièrement à sa politique au Proche et au Moyen-Orient. Il y a bien entendu la reconnaissance de l'État palestinien notamment.
Je pense que le président de la République a réussi depuis 2017 à donner une image différente de la France, beaucoup plus moderne. Le succès de Choose France l'a montré, de l'attractivité de la France au niveau de ses entreprises, relancer l'activité industrielle, relancer la formation professionnelle, lui donner, je dirais, des lettres de noblesse, ce qu'elle n'avait pas auparavant. Donc il a vraiment changé cette image au niveau international dans le domaine économique. Et pour moi, ça a été beaucoup plus facile de travailler sur ce côté-là depuis 2017 que par rapport à la période précédente. Donc ça, c'est le positif. Sur le Moyen-Orient, sur le Golfe en particulier, je pense qu'il a réussi à gagner la confiance des leaders de la zone, à créer une connexion directe avec eux et de confiance. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. La vision de... J'étais à Bahreïn et en Arabie Saoudite il y a 10 jours. Et j'ai pu voir justement l'impact positif de la politique de la France, mais surtout de l'image aussi des Français. Ce qui m'a été dit à chaque fois, vous savez, les Français, au plus fort de la crise, ils sont restés. Et les entreprises sont restées, les gens sont restés. Eh bien, le président de la République a parlé de cette fiabilité, de cette prédictibilité avec la France. C'est-à-dire que la France est toujours au rendez-vous là où on l'attend. Et donc ça, c'est important pour moi. C'est ça qu'il arrive à laisser comme ligne. C'est la question de « on sait où ils seront ». Et ils y sont le jour où on en a besoin. Ça, je pense que ça fait une différence. Ça fait une marque de fabrique. Et là, pour un entrepreneur, vous savez, la confiance de ses clients, la confiance de ses partenaires, c'est quelque chose qui est plus précieux encore que le chiffre d'affaires. C'est ce qui vous garantit que les gens seront à vos côtés, pourront continuer à vous faire fonctionner. Donc ça, moi, en tant qu'entrepreneur, cette vision-là, ça me parle et c'est celle que je tente aussi de créer dans mes relations avec mes partenaires ici dans le Golfe en tant que président du groupe d'amitié.
Vous allez tout faire en 2027 hein, pour éviter un duel RN-LFI. Votre candidat, plusieurs sont déclarés pour le moment au sein du bloc central. Édouard Philippe, Gabriel Attal, votre cœur penche pour qui ?
Mon cœur penche pour celui qui saura créer l'enthousiasme. On n'y arrivera pas si la seule raison d'être, c'est d'avoir une offre face aux extrêmes. Ce qu'il faut, c'est créer l'enthousiasme chez les Français. Il faut être capable de renouer avec eux, de leur montrer qu'on sait faire la part des choses entre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne pas, de trouver des nouvelles solutions pour s'y confronter, mais que ce n'est pas en opposant les uns aux autres qu'on aura une solution consensuelle et que notre pays sortira renforcé. Voilà, il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est pour ça que je suis très loin des extrêmes. Mais nous-mêmes, nous devons recréer un discours. Et la question, ça n'est pas Édouard Philippe, ça n'est pas Monsieur Attal, ça n'est pas ces noms-là. La question, c'est qu'est-ce que nous voulons proposer aux Français qui soit de nature à recréer l'enthousiasme pour repartir de l'avant, comme le président de la République l'avait créé en 2017. Il faut retrouver cet enchantement, cette façon de dire on peut monter encore plus haut. Il y a des choses qui ont été positives, il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Eh bien, il faut en tirer les conséquences. Mais en tout état de cause, il faut être capable de présenter un projet aux Français qui soit de nature à leur donner confiance, à leur dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui.
Et sachant qu'il faudra un homme ou une femme pour incarner cela, une primaire, est-ce que cela pourrait être une solution ?
Je pense que le candidat doit s'affirmer tranquillement. Je me rappelle qu'en 2017, M. François Fillon était sorti d'une primaire. Je me rappelle que le candidat socialiste était sorti d'une primaire et que finalement, c'était Emmanuel Macron qui était sorti comme étant celui qui était le plus à même de donner à la France, une nouvelle impulsion. Ce qu'il a fait avec ses plus et ses moins, mais c'est ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est la même chose. On a besoin de quelqu'un qui recrée cette impulsion et j'ai confiance que justement le monde politique sache faire émerger cela, et ce candidat doit s'affirmer naturellement.
Merci Olivier Cadic, je rappelle que vous êtes sénateur des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, président du groupe d'amitié interparlementaire France-Pays du Golfe.
Merci à vous.
Et merci à vous chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.